France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
La mission MMX pour Martian Moon Exploration va décoller en octobre 2026. Objectif, les lunes de Mars, Phobos et Deimos. Mais pourquoi s'intéresser à ces lunes extraordinairement petites ? Bien avant leur découverte en 1877, Voltaire imaginait deux lunes martiennes dans son conte philosophique Micromega de 1752. Avec la mission MMX, l'AJAXA, l'agence spatiale japonaise, s'apprête à passer 3 ans dans le système planétaire martien et à déployer sur le sol de Phobos le rover franco-allemand IDFIX pour apporter sur Terre des échantillons de régolithes pour 2031. Et comme Phobos est très proche de sa planète, il est probable que l'on embarque de la poussière martienne. Les Japonais pourraient ainsi devenir les premiers dans cette course aux échantillons martiens. Mars, le rendez-vous avec les lunes. Et bonjour Sébastien Charnoz.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris-Cité, à l'Institut de physique du Globe de Paris. Nous sommes en ligne également avec Pierre Vernaza. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Marseille et responsable scientifique des caméras de navigation du rover IDFIX. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios à France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure, en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors que sait-on des deux lunes de Mars ? Pourquoi sont-elles si mystérieuses ? Comment se sont-elles formées ? Et quels sont les objectifs de cette mission MMX ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais pour commencer, cette fascination pour les lunes de Mars ne date donc pas d'hier, elle n'est pas récente. En 1988, les Soviétiques lançaient la première sonde Phobos, c'est notre archive du jour.
Une extraordinaire expérience scientifique avec le lancement aujourd'hui à Baïkonour d'une sonde soviétique chargée d'explorer Phobos, un minuscule satellite de Mars. La sonde atteindra sa cible dans 200 jours environ, lorsque Mars sera à quelques 190 millions de kilomètres de la Terre. Pendant un an, les petites stations d'observation nous enverront des images très précises du satellite de la planète rouge. Parmi les spectateurs qui seront tout à l'heure autorisés pour la première fois à voir décoller une fusée soviétique Proton, il y aura une importante délégation française. La France est en effet partenaire de l'Union soviétique dans ce programme, Ulysse Gosset.
Pour les soviétiques, la mission Phobos, c'est le point de départ d'un long programme de recherche que l'on pourrait intituler Objectif Mars, Horizon 2005, avec l'envoi de robots puis de cosmonautes sur la quatrième planète du système solaire. Mars est l'objet numéro un du programme soviétique d'études des planètes à long terme, et c'est pourquoi le Kremlin a dépensé des milliards de roubles pour aller observer Phobos. À 9534 km de Mars, Phobos, un corps céleste, un patatoïde, comme disent les scientifiques en raison de ses formes biscornues. Au cours du dernier sommet Reagan-Gorbatchev, les soviétiques ont annoncé leur volonté de lancer un navire spatial vers Mars, si possible en coopération avec les Américains. Le lancement de la station interplanétaire Phobos 1er à Baïkonour confirme en tout cas l'avance du Kremlin. Grâce aux méthodes d'observation par laser, les soviétiques disposeront en effet des toutes dernières informations sur Mars et sur son satellite, le tout avec l'aide, avec l'assistance de nombreux pays, dont l'Allemagne fédérale et la France.
Voilà un extrait du journal du 8h de France Inter en 1988. Sébastien Charnoz, des milliards de roubles pour Phobos, ce tout petit corps du système solaire. Pourquoi son étude est-elle importante ?
Eh bien, l'étude de Phobos est importante parce que aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment les lunes de Mars se sont formées. C'est-à-dire que ce sont des lunes qui sont toutes petites. Et en particulier, Phobos, pour vous donner des distances, Phobos est à peu près à 3 fois le rayon de la planète. Donc il orbite à peu près à 3 fois la taille de la planète. Alors que Deimos est à peu près 2 fois plus loin. Sa trajectoire est à peu près à 6 fois la taille de la planète. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'en particulier, Phobos bouge très vite. Phobos tombe, en fait, vers Mars.
C'est quelque chose vers Mars, elle va s'écraser.
Il va s'écraser un jour, alors donc ça dépend un peu des modèles. Est-ce que c'est 10 millions d'années, est-ce que c'est 50 millions d'années, on ne sait pas très bien. Mais par contre, Phobos va finir par en tout cas se rapprocher de Mars et va être déchiré par les marées. Et donc ce qui éveille beaucoup, ce qui suscite beaucoup l'interrogation, c'est est-ce que Phobos est le dernier satellite d'une ancienne population ? On a quand même beaucoup de chances de voir Phobos. Si l'humanité était apparue 100 millions d'années plus tard, on l'aurait jamais connu. Et aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment ils sont formés. Est-ce que c'est un astéroïde capturé? Est-ce que c'est formé comme dans un impact géant, comme pourrait s'être formée la Lune? On ne sait pas très bien, donc ça pose beaucoup de questions. Et donc c'est ça qui suscite, c'est une des motivations d'aller explorer ce satellite.
Pierre Vernaza, votre action aussi à l'écoute de cet archive, puisque les Soviétiques étaient déjà eux aussi interrogés par l'existence et par la physionomie de Phobos.
Absolument, oui. Et déjà, ce qui est particulier, c'est que les planètes telluriques, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars, finalement, il n'y a que deux planètes qui ont des satellites. Et donc, forcément, ces Phobos et Deimos sont un petit peu des stars, avec la Lune étant les seuls satellites des planètes telluriques. On a les planètes géantes comme Jupiter et bien au-delà ont beaucoup plus de Lune. Et donc, c'est assez atypique d'en trouver parmi les planètes telluriques. Et donc, ça renforce l'intérêt pour comprendre comment ces objets se retrouvaient satellisés autour de Mars dans le cas de Phobos et Deimos.
Alors, ces rares lunes de planètes telluriques, Sébastien Charnoz, à quoi ressemblent-elles? Sont-elles si différentes de notre Lune à nous?
Alors, elles sont très différentes de notre Lune, en particulier parce que, comme vous le savez, il suffit de, simplement de regarder la Lune le soir, notre Lune est parfaitement ronde. Alors que Phobos et Deimos sont des objets, alors dans le document qu'on vient d'écouter, ils ont été qualifiés de patatoïdes, mais c'est une description qui est assez fidèle, c'est-à-dire que ce sont des objets qui ne sont pas du tout sphériques. Ce sont des objets qui ont une forme relativement biscornue. Alors, en particulier, c'est assez drôle parce que Phobos et Deimos sont une sorte de dépression à l'équateur, comme si elles avaient été fendues un petit peu à l'équateur. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi. Est-ce que c'est un impact ou on ne sait pas très bien. Voilà, c'est un peu un mystère. Mais les deux présentent cette caractéristique. Et également, Phobos, c'est particulièrement remarquable parce qu'elle possède un énorme cratère qui se trouve pas très très loin de la face qui fait face à Mars et qu'on appelle le cratère Stickney. Et donc, ce qui signifie qu'il y a eu un très gros impact sur Phobos. Donc, à l'œil, ce sont des objets qui sont extrêmement différents de notre Lune. Et également, voilà, ils ont aussi des couleurs qui sont un petit peu différentes. Alors, c'est pas des couleurs qu'on verrait à l'œil parce qu'il faut avoir un petit peu de précision dans l'observation, mais ce sont des objets qui sont très rouges et parfois avec des zones un peu plus bleues, en particulier en ce qui concerne Phobos. Et donc, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que ces régions qui sont un petit peu plus bleues? Est-ce que c'est du matériau plus frais? Mais en tout cas, c'est sûr que on a clairement affaire à des objets qui n'ont pas du tout la même histoire géologique qu'un objet comme la Lune. Et donc peut-être qu'ils ont aussi peut-être un scénario de formation qui serait aussi totalement différent. Donc ce sont des objets qui sont vraiment très, très mystérieux. Et on se demande si ils ne renferment pas des informations peut-être sur les premières milliards d'années de vie, enfin, en tout cas d'évolution du système solaire. Et comme ce sont des objets qui sont très peu évolués, eh bien, peut-être que ce sont un peu des archives qu'on va explorer, en particulier grâce à la mission MMX.
Et on reviendra dans le détail sur, évidemment, comment cette mission MMX va s'y prendre pour analyser tout ça. Mais Pierre Vernaza, pour compléter un peu cette carte postale interplanétaire, à quoi ressemble le sol de Phobos et Deimos? On parle quand même des plus petits satellites naturels d'une planète du système solaire.
Alors, c'est des sols qui sont assez sombres. Alors, plus sombre que celui de notre satellite, la Lune. Là, ils réfléchissent à peu près 7% de la lumière du Soleil. Donc, c'est assez bas, ça les rapproche. Et c'est ça qui crée un petit peu la zizanie dans notre compréhension de leur formation et de leur origine. Parce que finalement, quand on les regarde, ils s'apparentent énormément aux astéroïdes les plus primitifs de notre système solaire. Du point de vue de la fraction de lumière réfléchie, qu'on appelle albédo, du point de vue de leurs propriétés spectroscopiques, c'est l'outil qu'on utilise pour déterminer la composition. Et c'est vrai que dans le visible, un des domaines les plus fréquents où on observe, il ressemble étrangement à cette population lointaine d'objets possiblement formés aux confins du système solaire. Ce qui sème un peu le trouble, parce qu'ensuite, quand on regarde un petit peu de plus près leurs propriétés dynamiques, orbitales, ça ne correspond pas du tout à un scénario de capture, et c'est là où on perd un peu son latin, et ça sème le doute entre une formation par impact et une formation par capture d'objets formés loin de Mars, idéalement, aux confins du système solaire.
Avant de parler de leurs origines, peut-être Sébastien Charnoz, sur ce qu'on sait de ces lunes-là, vous nous avez dit, voilà, Phobos est la plus proche de Mars, quelle est sa période de révolution?
Alors, je crois que c'est à peu près de l'ordre de la dizaine d'heures, à peu près. Peut-être Pierre me corrigera, mais c'est de l'ordre de la dizaine d'heures. Et alors que pour Deimos, ça doit être peut-être de l'ordre de peut-être un peu moins de 20 heures, je pense. Mais à vérifier, c'est vrai que j'ai plus exactement le chiffre.
Pierre Vernaza, voilà.
Oui, la période de rotation de Phobos, c'est un peu moins de 8 heures. C'est un objet qui est en rotation synchrone. Enfin, les deux satellites sont en rotation synchrone comme notre lune. C'est-à-dire
Il y a une face cachée pour les Martiens, c'est ça? Il y a une face cachée pour les Martiens aussi, c'est ça?
Exactement, absolument, exactement, exactement. Donc, c'est toujours la même face qui regarde Mars. Et c'est comme pour notre satellite. Et c'est le cas pour Phobos et Deimos. Et Deimos tourne un peu plus de 20 heures.
Sébastien Charnoz, là on vient de dire que les marées martiennes attirent Phobos tout doucement vers la planète, mais est-ce que c'est possible que Phobos et Deimos soient les dernières représentantes d'une grande population de lunes qui ont peu à peu disparu, aspirées par Mars au cours du temps?
Alors, premièrement, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais effectivement, c'est un travail qu'on a fait en 2016 avec mon collègue Pascal Rosenblatt qui se trouve à l'Université de Nantes. Donc, on a étudié un scénario dans lequel on aurait formé peut-être Phobos et Deimos dans un grand impact. Alors, effectivement, parce que quand vous regardez Mars, toute l'hémisphère nord de Mars apparaît un peu comme une gigantesque dépression par rapport à l'hémisphère sud. Le niveau moyen de l'hémisphère nord de Mars est un petit peu plus bas. Et une des hypothèses, c'est que il y aurait eu un grand impact sur Mars qui aurait sculpté l'hémisphère nord. Bon. Un certain nombre de chercheurs, au début des années 2000, ont dit, mais écoutez, si on regarde la quantité de matériaux qu'on a pu mettre en orbite à l'issue d'un impact sur l'hémisphère nord de Mars, en fait, il y aurait suffisamment de matériaux pour former des dizaines de Phobos et de Deimos. Donc nous, c'est un processus qu'on avait simulé. Et ce qu'on a trouvé, en fait, dans notre calcul, c'est qu'on forme plein de Phobos et Deimos. Mais, c'est toute la subtilité, c'est que donc on va former une population peut-être avec une dizaine d'objets, c'est que la population qui se trouve en dessous de 6 rayons martiens, ceux qui sont plus proches que 6 fois le rayon de Mars, ils vont avoir tendance à se rapprocher de Mars, et là, coup de chance ou miracle des chiffres, il s'avère qu'au bout de 3-4 milliards d'années, ce qui est pas loin de l'âge du système solaire, ce qu'on a calculé, c'est qu'il ne devrait en rester plus qu'une. Et donc ce dernier des Mohicans, on pourrait être Phobos qu'on voit aujourd'hui. Donc ce qu'on propose, c'est que peut-être dans le passé, il y a déjà eu peut-être une dizaine de lunes qui se sont écrasées ou qui ont été détruites en se rapprochant de Mars. Et peut-être Phobos est le dernier pendant de cette population. Mais ça reste une hypothèse, et c'est une hypothèse en fait qui ne marche que dans ce scénario, qui est l'un des deux scénarios préférés, si je puis dire, pour former Phobos et Deimos. Voilà.
En tout cas, dans le passé de l'astronomie, pour revenir sur l'histoire de cette découverte, Pierre Vernaza, on a au XVIe siècle Kepler qui suspecte déjà le fait que Mars est deux lunes. Je le citais dans mon chapeau, dans mon introduction, Voltaire décrit Mars avec deux lunes dans son conte philosophique. On a Herschel, en 1783, qui part à la recherche des lunes de Mars. Et puis, comment ces deux lunes-là ont-elles été découvertes?
Elles ont été découvertes il y a pas loin de 150 ans, donc en 1877, par un astronome à Washington. Et ce qui a été surprenant, c'est que finalement, il a découvert la plus petite des lunes, Deimos, le 12 août en 1877. Et 6 jours plus tard, enfin, ou 6 nuits plus tard plutôt, Phobos a été découvert par ce même astronome. Et d'ailleurs, le cratère dont parlait Sébastien tout à l'heure, le cratère Stickney, le plus gros, enfin, présent à la surface de Phobos, c'est le nom de l'épouse de cet astronome. Et donc voilà, donc ça fait à peu près 150 ans que ces lunes sont découvertes. Donc, à cette date-là, déjà, on avait petits corps étaient découverts dans le système solaire, de nombreux astéroïdes. Donc, finalement, c'est une découverte qui a tardé hein, pour un objet comme Mars, qui est assez proche de la Terre, finalement.
Et donc, il les a baptisés en s'appuyant sur la mythologie. Hein, dans l'Iliade d'Homère, le dieu de la guerre décide de séduire Vénus en apparaissant sur un char tiré par deux chevaux inquiétants et musculeux. Phobos, la crainte, et Deimos, la terreur. 150 ans plus tard, Sébastien Charnoz, on a la mission Hera. Alors, elle, son objectif, c'est l'astéroïde Dimorphos, mais elle a frôlé Mars. Et on a de rares images, justement, de Phobos.
Oui, alors effectivement, donc la mission Hera, donc a pour objectif, donc c'est une mission qui est partie de Cap Canaveral, donc en octobre dernier, et qui a pour objectif l'astéroïde double Didymos. Alors il y a Didymos et son petit compagnon Dimorphos, comme vous l'avez dit. Voilà. Et donc pour pouvoir accélérer cette sonde jusqu'à l'orbite de Didymos, vous savez, en navigation du système solaire, une méthode qui est très utilisée pour essayer de propulser les sondes plus loin en dépensant le moins d'énergie possible, consiste à leur faire faire des rebonds gravitationnels. Donc c'est-à-dire qu'on s'approche d'une planète, on va chuter sur cette planète, et si on calcule bien notre trajectoire, on peut réussir à partir avec un peu plus de vitesse que celle qu'on avait en arrivant. Donc au passage, en fait, on ralentit, techniquement, on ralentit la planète, mais bon, tellement peu que ça n'aura pas de conséquences. Et effectivement, c'est vrai qu'en mars dernier, donc c'était très drôle, en mars, nous avons visité Mars, c'est-à-dire que nous avons fait un survol, un rebond gravitationnel autour Mars avec la mission Hera. Et ce qui était d'ailleurs très intéressant, c'est que la mission Hera a pour objectif d'étudier un petit corps. Et donc à cette occasion, et on a beaucoup de contacts avec avec nos amis, les collègues japonais, et à cette occasion, il y a eu en fait un survol de Deimos qui a été fait. Il y a pas mal d'images qui ont été prises de Deimos. Et c'était la première fois depuis le début des années 2000 à peu près. Voilà. Donc oui, il y a eu des observations de Deimos qui ont été faites avec Hera. Et à l'heure actuelle, on est en train de dépouiller les données, de dépouiller les images et de regarder si, par exemple, il y a eu des évolutions à la surface de Deimos depuis une vingtaine d'années. Mais maintenant, Hera est maintenant continue sur sa trajectoire. Elle est sortie du système martien. Et donc, on devra arriver en octobre 2026 dans le système Didymos Dimorphos.
Allez, en attendant, ces images de Deimos vont nous permettre de mieux connaître les propriétés thermophysiques, justement, de ce petit corps. Il existe, comme vous l'avez dit, un débat scientifique sur l'origine des lunes de Mars. Sont-elles issues, comme c'est probablement le cas de notre Lune, d'un colossal impact entre la planète et un autre corps céleste, lors des prémices du système solaire, ou bien sont-elles des astéroïdes capturés en orbite par la planète Mars? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
En direct sur France Culture avec Pierre Vernaza et Sébastien Charnoz, nous parlons des lunes martiennes. Phobos, la plus proche de Mars, et Deimos, la plus éloignée. De la même façon que chaque planète a une histoire différente, quasiment chacune des lunes du système solaire a des caractéristiques différentes. Pour la formation d'un satellite en orbite autour d'une planète, on distingue généralement trois scénarios possibles, la collision, la capture et l'accrétion.
On admet généralement, mais enfin tout le monde n'est peut-être pas de cet avis, que la Lune est un fragment détaché de la Terre.
Oh, alors là, ça fait encore partie de ces mystères, de ces mystères cosmiques qui rejoignent un peu quelle est l'origine elle-même de la Terre, l'origine du monde solaire, des planètes et du Soleil lui-même. En fait, en ce qui concerne la Lune, on a trois théories en présence. D'une part, les gens qui pensent, qui estiment que la Lune s'est formée en même temps que la Terre. D'autres qui pensent que la Lune s'est arrachée de la Terre, en particulier de cette fosse atlantique là, qui est importante.
Oui.
C'est l'Atlantide d'ailleurs, partie dans l'espace. Ou bien enfin, un espèce de corps céleste qui aurait été capté petit à petit par l'attraction terrestre. D'ailleurs, ceci sur le plan mécanique suppose un certain nombre de phénomènes d'ailleurs assez peu probables qui se passent les uns à la suite des autres, c'est-à-dire quelque chose d'un peu anomalique.
D'ailleurs, lorsqu'on y sera arrivé, il se peut que l'étude des roches, l'étude de ce que l'on pourra extraire en faisant quelques trous, pourra peut-être nous guider un petit peu sur les origines de la Lune. Ce n'est pas sûr, bien entendu. Non, ça nous apportera des renseignements précieux.
Je pense qu'effectivement, on aura des renseignements, mais pas plus qu'on trouve de renseignements sur la Terre quant à l'origine
de la Terre. Oui, naturellement.
Un extrait de l'émission Le Magazine des Sciences sur France Culture en 1966. Sébastien Charnoz, voilà, le scénario de la collision, c'est celui qui est très largement privilégié pour l'origine de la Lune, notre satellite à nous.
Oui, alors c'est une très longue histoire. Alors l'origine, oui, alors c'est aujourd'hui le scénario qui est privilégié. Mais on n'a toujours pas de preuve que c'est le bon scénario. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne peux pas vous apporter un élément qui vraiment vous démontre qu'il n'y a pas de scénario qui peut marcher. Mais c'est vrai que le scénario de la collision pour la Lune, et donc, enfin, en écoutant cette archive, alors, je me suis un peu permis de sourire, mais c'est facile de sourire avec 50 ans de recul, enfin même 60 ans de recul après. Quand les deux intervenants disent oh, on va peut-être rien apprendre ou peut-être très très peu, l'étude des roches lunaires qui ont été retournées par les missions Apollo nous ont permis d'apprendre énormément de choses sur la Lune et en particulier parce que la Lune a très peu évolué depuis son origine, contrairement à la Terre qui elle a énormément évolué depuis son origine. Donc, une des choses qu'on a appris en étudiant les roches lunaires, et d'ailleurs c'est un enseignement qui va nous servir pour MMX, c'est qu'en particulier les roches lunaires ont une composition qui semble avoir perdu énormément de gaz volatiles. Alors, des gaz volatiles, c'est des gaz qui sortent des roches dès que vous les chauffez un petit peu. Donc, par exemple, alors bon, c'est le sodium et le potassium. Donc, en gros, vous prenez un caillou, vous le mettez dans le four. Les premiers gaz qui vont sortir, ça va être en particulier du sodium, du potassium, du zinc. Bon, et en tout cas, la Lune en est très pauvre. Donc ça, ça vous dit que la Lune a énormément chauffé. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la Lune a un tout petit noyau de fer. Et aujourd'hui, c'est vrai que parmi la variété des scénarios possibles, les seuls qui ont l'air de pouvoir un peu expliquer ces deux choses, c'est un scénario où il y a eu un événement très fort thermiquement parlant, et c'est vrai que le scénario de la collision a beaucoup d'attrait. Voilà. Mais il y a ce scénario n'est pas sans problème, et aujourd'hui le débat est toujours extrêmement actif.
C'est le scénario de la collision, c'est le scénario privilégié aussi pour Deimos et Phobos. Pierre Vernaza, on a le scénario également donc de la capture gravitationnelle, c'est le scénario qui est fort probablement celui de Triton, la lune de Neptune. C'est le scénario qui est quand même un peu moins privilégié dans le cas de Mars.
Absolument, parce que y a deux problèmes majeurs. Enfin, les orbites ne collent pas du tout avec une capture, parce que typiquement les populations de petits corps ont toutes des inclinaisons et excentricités relativement importantes. Donc si c'est des objets capturés, il faudrait un miracle pour aboutir aux orbites présentes des lunes qui sont complètement circulaires, enfin globalement complètement circulaires, et avec une inclinaison quasi nulle. Donc elles sont vraiment dans le plan équatorial de Mars. Et pour aboutir à des orbites aussi régulières, via un scénario de capture, ça semble très compliqué. Il faudrait par exemple qu'il y ait eu beaucoup de gaz autour de Mars, enfin que ce soit passé tôt, qu'il y ait beaucoup de gaz autour de Mars pour aider à circulariser les orbites. Mais c'est des scénarios un peu fantasques. Donc voilà, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment d'explication des propriétés dynamiques des lunes dans le cadre d'une capture. Et par ailleurs, il y a un autre souci, peut-être une autre propriété physique qui colle assez mal avec une capture. C'est la densité des lunes qui est quelque part pas si faible. La densité de Phobos avoisine les 2 grammes par centimètre cube, 1,9. Ça colle pas trop avec des objets type cométaire. Hein. C'est beaucoup plus dense. Et si on s'oriente vers cette population d'objets primitifs qui, pour l'instant, sont les seuls à s'apparenter aux lunes, on a une différence de densité qui est énorme. Hein. On retrouve pas une concordance à ce niveau-là, et ça, c'est problématique, en fait. Donc a priori, même de ce point de vue-là, le scénario d'impact reste un peu comme le seul crédible.
Puisqu'il y a aussi ce troisième scénario qui est celui de l'accrétion, quand les lunes se forment en même temps que la planète à partir du disque de gaz et de poussière qui entoure une étoile en formation dans un disque protoplanétaire. Ça, c'est très régulier dans le système solaire, mais plutôt pour les planètes géantes. Sébastien Charnos, pourquoi justement ce modèle est quasiment exclu pour les lunes de Mars ?
Parce que pour capturer un disque d'accrétion, en général, il faut plutôt une très grosse planète. Il faut une très grosse planète. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on essaie de simuler ces disques d'accrétion. Ça marche très bien pour Jupiter. Pour Jupiter, on peut avoir un très beau disque d'accrétion. Et on pense que, par exemple, la régularité des 4 grandes lunes galiléennes, que sont Io, Europe, Ganymède et Callisto, témoigne de la présence de cet ancien disque. Voilà. Pour Saturne, c'est plus compliqué de capturer un disque, et pour Uranus et Neptune, il semblerait que ce soit quasiment pas possible. Donc pour des corps encore plus petits comme la Terre, Mars, en plus dans un environnement où il fait très chaud, c'est-à-dire que le gaz, quand il fait très chaud, si vous voulez, le gaz a tendance à le gaz du disque protoplanétaire qui entraîne sa poussière a tendance à avoir des très grandes vitesses, ça devient quand même très très difficile de capturer un disque. Donc, dans ce contexte, c'est vrai que on pense que le scénario de la co-accrétion est relativement peu probable.
Voilà, donc pour trancher en tout cas ces débats et ces éléments de doute, on a cette mission martienne, la MMX, qui a été annoncée juin 2015 par la JAXA. Octobre 2026, c'est le lancement qui est prévu depuis le Japon. Pierre Vernaza, pourquoi ce n'est que par échantillonnage qu'on va pouvoir clore le débat ? Est-ce que l'imagerie spatiale ne fonctionne pas pour résoudre ces questions-là ?
L'imagerie a atteint ses limites, en fait. Finalement, sur place, avec la sonde, d'abord l'orbiteur, puis le rover qui va être déposé à la surface, on pourra faire de la géologie, on pourra mieux comprendre l'histoire géologique des deux lunes. Maintenant, pour trancher sur ce débat de l'origine, c'est vraiment l'analyse des échantillons en laboratoire qui va permettre de trancher, de faire des mesures qu'on ne peut pas faire in situ, ou à minima avec les instruments embarqués. notamment par exemple la composition isotopique qui va vraiment nous donner un lien ou pas avec Mars. On pourra faire des comparaisons directes avec les roches martiennes. C'est exactement comme cela qu'on a procédé avec les roches lunaires versus les roches terrestres. Et c'est ces mesures-là qui vont nous renseigner sur l'affinité, le lien de parenté direct ou pas avec Mars, et nous conforter dans l'idée que possiblement c'est un morceau de croûte, donc appauvri en fer par exemple, des mesures analogues à ce qui a été fait sur les échantillons lunaires.
Sébastien Charnoux,
sur place, oui.
Mais par rapport justement à l'imagerie spatiale, on n'arrive presque pas à dire quoi que ce soit sur Phobos.
Oui, c'est un petit peu le problème, c'est-à-dire que, et là c'est Pierre le grand spécialiste, c'est-à-dire que ces petits corps qui orbitent dans le système solaire, ils sont irradiés par le vent solaire en permanence, ils sont leur surface est travaillée en permanence par un flux météoritique, et si vous voulez, c'est pas comme la surface de la Terre est relativement protégée par son champ magnétique, et il y a pas ces choses-là sur Phobos ou Deimos. Et dans ces conditions, tous les minéraux à la surface dont la signature pourrait nous donner des informations sur son origine sont cassés, brisés, menus, ce qui fait que leur signature spectroscopique, c'est-à-dire leur couleur, change en fait, et ça devient très très difficile à interpréter. Voilà. Et donc à un moment, le seul moyen de trancher, c'est vraiment d'aller creuser la surface et d'aller prendre les minéraux peut-être un tout petit peu plus en profondeur, quelques microns ou quelques millimètres dessous, pour essayer vraiment d'aller voir ce qui a été protégé et trouver du matériau un petit peu plus original et qui nous donnera des informations. Voilà quoi.
Et bien, comment va se passer cet échantillonnage? Quels sont les instruments de la mission? Restez à l'écoute. Space Boogie de Total Eclipse en direct sur France Culture. On explore les lunes de Mars, Phobos et Deimos en compagnie de nos deux invités du jour. Pierre Vernaza, chargé de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Marseille et responsable scientifique des caméras de navigation du rover IDFIX. Et Sébastien Charnoz, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Cité à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Alors comment ces lunes se sont-elles formées? On vient de voir qu'expliquer la formation de corps aussi petits n'est pas simple et que c'est l'une des raisons, pas seulement, pour lesquelles on envoie la mission MMX. Pierre Vernaza, on a donc cette mission qui va partir en octobre 2026. On va, d'ici août 2027, arriver en orbite martienne de MMX. Cette mission va passer à peu près 3 ans dans le système planétaire martien. Quelles vont être les étapes de cette mission, les grandes dates clés?
Donc, la MMX va étudier Deimos et Phobos en détail, et notamment ensuite faire une cartographie très précise de Phobos pour identifier les sites d'atterrissage d'une part du rover et également de la sonde elle-même qui va directement collecter les échantillons à la surface. Et donc ça va être un des gros enjeux, c'est de rapidement déterminer le site d'atterrissage favorable, sachant que déjà à partir des modèles 3D actuels de Phobos, une série de sites d'atterrissage ont déjà été identifiés et la liste est déjà très restreinte à ce stade. Et c'est vraiment les observations in situ de la première année qui permettront de trancher sur les sites d'atterrissage respectifs du rover et de la sonde pour les échantillons.
Alors comment Pierre Vernaza, IDFIX, va-t-il échantillonner le sol de Phobos ?
Alors IDFIX, il va être largué idéalement à 40-50 mètres de la surface. Il va se poser par rebond, un petit peu, ça nous rappelle Philae sur la comète. On est sur un objet Phobos qui a une gravité faible, hein, c'est à peu près l'ordre d'un millième de celle de la Terre. Et donc il va un peu rebondir à la surface. Et ensuite commencer sa journée, donc il a quatre jambes qui lui permettent de se redresser, peu importe la manière dont il atterrit à la surface. Il pourra se redresser quelle que soit sa position. Et on est en train de parler d'un rover qui fait à peu près, enfin sa hauteur, une cinquantaine de centimètres et qui pèse à peu près 25 kilos. Donc voilà. Et donc il disposera de trois panneaux solaires qui vont pouvoir l'alimenter pour qu'il puisse parcourir la surface de Phobos. Donc nous, ce qu'on espère, c'est qu'il fonctionne au moins pour 100 jours. C'est l'objectif. C'est un rover qui va se déplacer assez lentement, hein, à la vitesse de l'escargot, lors de 1 mm seconde. Ça nous fait à peu près 3-4 mètres en une heure. Et on espère que sa journée, son voyage se passera sans encombre.
C'est-à-dire 100 jours pour 10 grammes de matière. Sébastien Charnos, pourquoi on se pose sur Phobos plutôt que sur Deimos ?
Alors, pourquoi est-ce qu'on se pose sur Phobos plutôt que sur Deimos ? Eh bien, peut-être que Phobos... c'est vrai que si on suppose que les lunes ont la même origine, ce qui n'est pas sûr, hein, a priori, on pourrait soit se poser sur l'un, soit se poser sur l'autre. Mais Phobos a un intérêt particulier parce qu'il est très proche de Mars. Et là, c'est là où nos amis japonais, je pense, ont extrêmement bien pensé leur mission. Parce que par ailleurs, vous savez qu'un des grands enjeux aujourd'hui de l'exploration spatiale, c'est le retour d'échantillons martiens. Donc la NASA en particulier a un très gros programme de retour d'échantillons martiens qui s'étale sur plus de 10 ans et qui s'appelle le Mars Sample Return et qui est en plusieurs étapes. Et d'ailleurs, les premières étapes sont déjà engagées. Hein. Les rovers martiens collectent aujourd'hui des échantillons et les dispose à la surface de Mars. Et en théorie, il devrait y avoir une deuxième phase où on va recollecter les échantillons, puis une troisième phase où les échantillons vont être envoyés en orbite, puis ramenés sur Terre.
Voilà. C'est un peu du plomb dans l'aile.
Voilà, alors, donc pour des raisons budgétaires, effectivement, aujourd'hui, cette mission extrêmement ambitieuse, Mars Sample Return, on n'est pas très sûr d'en voir la fin avant au moins 10 ou 15 ans, ou voire peut-être plus. Voilà, bon. Mais il s'avère que Mars est régulièrement impacté par le bombardement météoritique qui touche tous les corps du système solaire interne. Et donc, il y a régulièrement des impacts de météorites à la surface de Mars qui mettent de la poussière martienne en orbite. Et ce qui a été calculé, c'est qu'on devrait avoir, au fond, de la poussière martienne mise en orbite et qui devrait être naturellement collectée par Phobos. Et comme Phobos est juste à côté, il en collecte énormément plus que Deimos. Donc l'un des espoirs de la mission, et au fond c'est là où on voit, c'est assez étonnant, enfin c'est là où on voit un peu les compétitions, une compétition relativement fair play, mais une compétition quand même entre les différentes agences spatiales, c'est qu'il n'est pas du tout impossible. Ce qu'on espère, c'est trouver dans les échantillons de Phobos de la poussière martienne, et auquel cas on aurait en fait le premier échantillon martien. Mais donc c'est là où la mission a été très bien pensée, parce que c'est très dur de décoller de Mars, et c'est pour ça que la mission Mars Sample Return américaine est si compliquée à mettre en œuvre.
Pourquoi c'est dur de décoller de Mars?
Ah bah parce que Mars est plus petite que la Terre, mais le champ de gravité de Mars est tel qu'en gros, faire décoller d'une fusée depuis Mars, c'est très compliqué. Il faut construire la fusée sur Terre, hein, l'emmener sur Mars, assembler la fusée sur Mars, lui mettre tout son carburant, décoller sur place et revenir sur Terre. Alors que décoller de Phobos, qui, comme le disait Pierre, est un petit objet avec une gravité qui est à peu près un millième de la gravité terrestre, eh bien, technologiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a une chance, en fait, que finalement, c'est un désespoir de cette mission, qu'on ramène en même temps que des échantillons de Phobos, on ramène aussi des échantillons martiens. Et là, effectivement, ça va être très intéressant, on va en apprendre beaucoup sur Mars.
Voilà. Donc, ça signifie, Pierre Vernaza, que les Japonais pourraient donc être les premiers dans la course.
Absolument, oui. C'est, alors, ils s'en vendent pas trop, ils restent discrets sur le sujet martien. Mais bon, par exemple, j'étais à un colloque où il y avait des membres de la NASA, ils disaient c'est vraiment intelligent d'avoir visé Phobos, c'est un très beau premier retour d'échantillon de Mars, c'est bien pensé. Donc oui, non, je pense qu'on va définitivement échantillonner plus que Phobos lui-même, et il y aura probablement des quelques grains de Mars, certainement.
On a des instruments qui ont été, plusieurs instruments qui sont pris à bord de cette mission. Est-ce qu'on peut les détailler ensemble, Pierre Vernaza?
Oui, absolument. Donc sur la sonde, sur l'orbiteur, il y a deux caméras, plus ou moins une haute résolution. Il y a un instrument français qui est un spectromètre infrarouge, qui est porté par un laboratoire de l'Observatoire de Paris et qui va faire donc une cartographie complète de la minéralogie des deux lunes et qui va être probablement un des instruments les plus sensibles et plus diagnostiques de l'origine des lunes. À l'heure actuelle, une difficulté avec ces lunes, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de signature qui nous permettent d'identifier des minéraux. Et on espère qu'avec ce spectromètre qui aura une meilleure résolution spatiale, qu'on puisse voir la surface plus en détail, qu'enfin des signatures apparaissent pour progresser sur l'origine des lunes. Et sinon, il faudra attendre le retour des échantillons sur Terre pour en savoir plus. Et donc, à part ça, il y a donc sur le rover IDFX, nous avons donc les caméras de navigation, les paires stéréo dont je suis responsable, et le laboratoire de physique de Marseille est responsable, qui vont permettre de guider le rover et identifier les zones d'intérêt à la surface de Phobos. Il y a des caméras qui vont regarder les roues. Donc ça, c'est des caméras qui sont portées par SupAéro, l'ISAE, et qui ont été développées par le CNES. Et donc, ils vont nous apprendre plus sur le régolithe de Phobos en détail, avec une résolution qui avoisine les centaines de microns, donc un dixième de millimètre. Ça vous donne une idée de la précision. Et ensuite, vous avez deux instruments allemands, dont un qui sera assez diagnostique sur la composition, un spectroramant, et qui sera assez complémentaire de ce qui sera fait en orbite avec le spectromètre français MIRS. Donc voilà à peu près une vue d'ensemble. Il y a aussi un instrument américain qui va donner un petit peu la composition élémentaire de la surface. Ce sera un instrument qui permettra aussi de faire le lien avec la composition élémentaire des roches martiennes.
Vous souhaitiez compléter ou réagir, Sébastien Chardon?
Non, c'était juste sur la partie. Je pense que l'instrument Mégane, qui est là aussi l'instrument américain, il va nous permettre d'avoir aussi une première idée, puisque il va faire des isotopes. Et donc, c'est celui qui va nous permettre d'avoir aussi une première idée de quelle serait peut-être l'origine possible, mais qui attendra bien sûr la confirmation de l'échantillon. Voilà.
En tout cas, vous évoquez le spectromètre MIRS. On part le découvrir, c'est le reportage du jour. L'objectif principal de la mission MMX est donc d'étudier l'origine et la formation des lunes martiennes. Et parmi les nombreux instruments embarqués, le spectro-imageur MIRS devrait aider à atteindre cet objectif. Pour découvrir la réplique parfaite de cet instrument, nous sommes allés au laboratoire d'instrumentation et de recherche en astrophysique de l'Observatoire de Meudon. Et c'est avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha, oui, pour découvrir l'instrument MIRS, un spectro-imageur qui fonctionne dans le proche infrarouge pour analyser les surfaces de Phobos et de Deimos, ainsi que la composition atmosphérique de Mars. L'agence spatiale japonaise, la JAXA, a fait appel à l'expertise des équipes françaises, dont celle d'Antonella Barucci, qui est responsable de l'instrument, et de Pernel Bernardi, ingénieur de recherche, qui ont dans ce laboratoire procédé à l'intégration et l'assemblage de l'instrument. Un véritable concentré de haute technologie comprenant télescope, spectromètre, détecteur, obturateur, scanner, radiateur et système de survie thermique, le tout dans 10 kg que les deux scientifiques dévoilent en salle blanche.
Donc MIRS, c'est l'instrument qui observera Phobos et Deimos entre 0,9 et 3,6 microns.
Dans le proche infrarouge.
Dans le proche infrarouge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un spectromètre infrarouge? Ça veut dire qu'il va réfléchir la lumière du soleil. Et avec cette mesure, on pourrait comprendre la composition minéralogique de la surface de Phobos. Donc, nous, on observera tous les systèmes martiens. On observera Mars, l'atmosphère martienne, mais en particulier Phobos et Deimos.
J'ai lu que MIRS fonctionnait sur le mode de push-broom. Qu'est-ce que ça signifie exactement par rapport à l'acquisition d'images?
Ça veut dire qu'en fait, à un instant T donné, on ne voit pas une image de dimension, une image classique, mais on voit simplement une bande étroite projetée sur le sol de Phobos, par exemple, ou de Mars. Et que donc, il va falloir utiliser le satellite et les déplacements du satellite par rapport à Phobos pour reconstruire une image de dimension au sol.
Et finalement, on a une image comme 3D en fonction de la longueur d'onde.
Ouais, à la fin, on a des cubes images. Après data processing au sol, ou traitement de données, on aura des images spatiales, donc les deux dimensions spatiales. Et dans la troisième dimension, on aura le spectre de chaque point de l'image. On va voir l'instrument ?
Allons-y. En fait, c'est ici qu'ont été intégrées et assemblées les différentes composantes de MIRS.
Exactement, ce qu'on appelle les phases d'assemblage, intégration et test. On a rassemblé les différentes pièces mécaniques, détecteurs, les différents mécanismes, les cartes électroniques. On fait l'assemblage des différentes pièces et ensuite on vient tester à température ambiante, on fait des tests fonctionnels. Et ensuite, on est également sur le site, on va dire, ce qu'on appelle un moyen d'essai vide spatial. Donc on va aller mettre l'instrument
à l'épreuve,
on va le faire souffrir un peu. On le met sous vide, on le met très froid, très chaud, on fait des cycles thermiques. Et on va vérifier qu'il résiste à tout ça, évidemment. Et surtout, qu'il atteint les performances qu'on souhaite. Donc on fait tout ça à Meudon. Et ensuite, il est parti au Japon. Donc là, en fait, il y a deux salles blanches. Nous, on va rentrer, donc il y a une salle Delta, une salle Titan. Et on est en salle Titan. Donc voilà, donc là je vais enlever ce sachet qui protège l'instrument. Donc ce que vous avez ici, c'est l'instrument MIRS.
C'est donc, déjà esthétiquement, même si c'est un peu superflu, c'est...
C'est joli.
C'est très beau, c'est et condensé d'ingénierie.
Des low box, la boîte optique et la boîte électronique, hein, ça fait 10 kilos.
Ouais, MIRS est un ensemble de deux boîtiers principaux. On a un boîtier électronique là-bas qui, qu'on appelle e-box, un boîtier électronique qui contient deux cartes électroniques principales. Il y en a une qui va être chargée de recevoir l'alimentation primaire qui vient du satellite et qui va créer toutes les tensions secondaires pour faire travailler tout l'instrument. Et la deuxième carte, ça va être, on va dire, le cerveau de MIRS qui emporte, qui va avoir tout le contrôle commande avec un FPGA, un logiciel embarqué qui va recevoir des télécommandes de la sonde MMX, les interpréter, renvoyer les ordres aux équipements, recevoir la télémétrie, des images, des mesures de température, de courant, etc., les mettre en forme et les renvoyer vers MMX. Donc ça, c'est un petit boîtier électronique qui fait 1,2 kg, qui est vraiment situé à l'intérieur du satellite. Il va être au chaud, dans son cocon, bien protégé. À l'inverse, le deuxième boîtier, qu'on appelle low box, là, pour le coup, c'est la partie optomécanique, un spectromètre. Il va y avoir des optiques, il va y avoir des mécanismes. Pour parler, il y a un détecteur qui va analyser les images et un petit peu d'électronique. Cette partie-là, elle est à l'extérieur du satellite. Elle regarde vers le bas, ce qu'on appelle un pointage nadir. Et c'est elle qui va aller regarder le sol de Phobos, de Deimos, donc les deux lunes de Mars, et Mars.
C'est fou, parce qu'en plus, cet instrument, il doit peser quoi, 8 kilos ?
Ah, vous n'êtes pas loin, ouais. On a 8 kilos pour cette partie, un peu moins de 8 kilos pour la partie optomécanique, et puis 1,2 kg pour la partie électronique. Là, je ne vais pas vous enlever. En fait, on a parlé de cette couleur dorée, là, magnifique, de la MLI, et dessus, on a une partie, là, qu'on voit de couleur plutôt argentée, c'est ce qu'on appelle les radiateurs. Et ces radiateurs, ils vont aller regarder l'espace froid, et ils vont permettre d'évacuer toute la chaleur dissipée par les différents composants de l'instrument pour essayer justement qu'il reste le plus froid possible. Alors si on ouvre ces radiateurs, ce couvercle, à l'intérieur c'est tout noir. Toutes les parties mécaniques sont peintes en noir pour éviter de la lumière parasite et qui pourrait un petit peu dégrader notre résolution spatiale, résolution spectrale. Et on a dedans toutes les optiques, un télescope, on a un scanner devant, monoaxe, qui va venir modifier la ligne de visée de l'instrument. Donc on se sert du satellite, mais également notre scanner, pour aller viser le point qu'on veut sur Phobos et de ralentir ou d'accélérer le défilement de MIRS par rapport à Phobos. Ça nous permet de complètement contrôler les acquisitions qu'on fait et le niveau de ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit, la performance de l'instrument. Donc on pilote ça nous-mêmes. Donc j'ai parlé d'un télescope, d'un collimateur, on a un réseau de diffraction qui va disperser la lumière, puisqu'on fait des spectres, et puis deux objectifs avec 3 lentilles, 5 lentilles, des filtres qui nous trient un petit peu tout ça, et puis on arrive sur un détecteur qui refroidit. Donc on a un détecteur infrarouge qui est mis dans une enceinte à vide, un cryostat, et qui refroidit lui à 110 Kelvin.
Qu'est-ce qu'on s'attend à caractériser comme composition minérale ? Parce qu'on dit que Phobos et Deimos se rapprochent d'un profil type astéroïde C. Donc
oui, que ça veut dire des astéroïdes et conduites carbonées semblables. Donc comme les deux hypothèses plus importantes, la mission, ce qu'il doit faire, c'est vraiment comprendre l'origine de Phobos et Deimos. Donc en réalité, pour l'instant, il y a deux hypothèses. Un, qu'ils soient des astéroïdes capturés, ou bien qu'ils soient les résultats d'une grande collision. Donc, si c'est des astéroïdes capturés, l'idée, c'est d'avoir des compositions semblables à celles des astéroïdes de type C, donc conduits carbonés. Et donc, dans ces cas-là, on cherche des traces d'eau et des organiques. Ou bien, si c'est dans les cas d'une collision, on cherche des minéraux comme sur la surface martienne. Donc, c'est avec des analyses détaillées, parce que nous, on va voir tout un survol, une map de toute la surface de Phobos avec une résolution autour des 10 mètres, 20 mètres. Et on arrive jusqu'au centimètre quand on descend dans les différents sites d'atterrissage. Donc, en fonction des orbites, on aura différentes résolutions qu'on n'a jamais eues jusqu'à maintenant avec toutes les missions martiennes, avec les observations qu'on a faites de Phobos et de Deimos.
Merci Céline Lozen. Nos reportages loin du studio pour se frotter à la science telle qu'elle se fabrique au quotidien. C'est notre collection La Science au Labo qui est à retrouver sur votre appli préférée, l'appli Radio France bien sûr. Pierre Vernaza, une réaction à l'écoute de ce reportage ?
Eh ben, très bien, très bien. Donc un commentaire sur une des dernières phrases d'Antonella. Effectivement, les silicates, et notamment les signatures de l'eau, vont être très diagnostiques. Alors, le possible problème que je vois avec l'eau, c'est effectivement, on en a dans les chondrites carbonées, hein, celles qui viennent des astéroïdes primitifs. Mais de l'eau et des silicates hydratés, on en voit également à la surface de Mars. Et possiblement, ils étaient très nombreux dans l'histoire jeune de Mars. Donc, si c'était seulement sur la présence d'eau, il n'y aurait pas. Enfin, je dirais que les deux scénarios sont possibles. Maintenant, la nature des silicates hydratés va très certainement varier, notamment les bandes d'absorption de ces phyllosilicates, elles sont propres à leur environnement. Et très certainement que les signatures des silicates hydratés seraient très différentes dans le cas de fragments martiens versus les chondrites carbonées. Donc sur la base des signatures observées, on pourrait possiblement déjà avoir un indice entre les deux scénarios.
Sébastien Charnoz.
Je pense aussi que, alors tout à fait, donc, comme le disait Pierre, il y a la signature des phyllosilicates, mais il est vrai aussi que les chondrites carbonées sont relativement bien caractérisées en laboratoire et on connaît bien leur abondance élémentaire. Voilà. C'est-à-dire le nombre d'atomes de silicium, de fer, de magnésium. Et une des propriétés assez étonnantes des chondrites carbonées, c'est qu'en même temps, elles ont l'air de contenir un peu plus de carbone et d'avoir été un petit peu hydratées, mais en même temps, elles sont relativement riches en éléments réfractaires. Les éléments réfractaires, ce sont les éléments qui condensent à haute température, telles qu'elles sont riches en aluminium ou en calcium, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, si on s'aperçoit que Phobos possède des phyllosilicates et est riche en aluminium ou en calcium, ça va énormément le rapprocher de ces familles qu'on appelle les chondrites carbonées. Mais si on voit une composition beaucoup plus exotique. Alors ça, par contre, ça va être très intéressant parce que dans le cas du scénario d'impact, bien entendu, ça veut dire qu'une partie du matériau qui constituera Phobos viendra de Mars, mais il y aura aussi une partie du matériau de l'impacteur. Et pour l'instant, dans l'impacteur, on n'a aucune idée de ce que pourrait être l'impacteur. Est-ce que ça pourrait être un objet type terrestre, type corps terrestre, ou est-ce que ça pourrait être un objet comme une comète? Est-ce que ça pourrait être un objet qui vient du système solaire externe, riche en eau ou pas riche en eau? Et les modèles montrent en fait que si vous faites impacter sur Mars, un objet riche en eau ou peu riche en eau, eh bien, vous obtenez des compositions complètement différentes. Et donc, pour ça, à la fin, vous avez besoin de deux diagnostics, la composition élémentaire, c'est-à-dire le nombre d'atomes de chacune des espèces, mais aussi la composition isotopique. Et ça, la composition isotopique sera très contraignant, parce que si ça a chauffé, ça devrait se voir dans la composition isotopique, comme ça s'est vu pour la Lune. Voilà. Donc, c'est pour ça que le retour d'échantillons sera vraiment déterminant, je pense.
Au-delà de cette question de l'origine, Pierre Vernaza, quels sont les autres objectifs de cette mission? Quels sont les autres mystères auxquels la mission MMX va se frotter?
Il y a un premier défi, par exemple, en ce qui concerne Phobos. Vous avez des espèces de fractures apparentes, des sillons qui sont assez remarquables, qui sont extrêmement nombreux. Il n'y a pas d'autres corps dans le système solaire où on observe autant de sillons. Alors, une des hypothèses, c'est que c'est les forces de marée qui travaillent un peu la structure et qui vont aider un petit peu à fissurer la sous-surface. Et donc, ce qu'on observe, c'est un petit peu le régolithe qui tombe un petit peu dans ces sillons. Et aussi une autre question, c'est cette variété de couleurs très forte à la surface de Phobos. On a un gradient de couleurs et d'albédo pas vraiment été observé jusqu'à présent sur d'autres corps du système solaire, enfin à ce point-là, sur des petits corps, je parle, hein, qui n'ont pas d'activité géologique propre normalement. Et on ne comprend toujours pas cette dichotomie de couleurs qui est essentiellement propre à Phobos, mais qui se voit un petit peu sur Deimos. Et donc, pour l'instant, ça ne colle pas forcément avec une surface plus jeune. C'est quelque chose qu'on n'explique pas vraiment à l'heure actuelle. Et donc, ça aussi, c'est un petit mystère. Cette dichotomie de couleurs qui s'observe même du sol, hein, de Terre, c'est déjà vu avec les télescopes. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse évidente à cette dichotomie.
Ce gradient de couleurs, d'ailleurs, l'instrument MIRS permettra d'ailleurs de mieux comprendre ces gradients de couleurs-là. Sébastien Charnoz, quels sont les autres mystères?
Alors, parmi les autres mystères, une des questions qu'on se pose, c'est quel est l'intérieur de Phobos? Voilà. Donc, on va échantillonner la surface, mais aussi, est-ce que Phobos est un objet, est un corps complètement homogène? Ou est-ce que Phobos est un corps avec de multiples fractures à l'intérieur? Est-ce que c'est plutôt un entassement de gros cailloux? Tout ça, c'est des choses qu'on connaît pas. Et alors, ça va être contraint avec ce qu'on appelle la radioscience en particulier. Donc, c'est-à-dire que on va essayer de bien étudier la trajectoire de la sonde autour de Phobos, et cette trajectoire va être sensible au champ de gravité. Et le champ de gravité est une expression, si vous voulez, de la structure interne. Donc, on va pouvoir un petit peu mieux comprendre ceci. Et ce que je vois aussi comme autre objectif, c'est plus un objectif un petit peu technologique, et Pierre connaît ça bien mieux que moi. C'est toute la question en fait du matériau en microgravité. Atterrir sur du régolithe, enfin, c'est-à-dire sur une espèce de poussière en microgravité qui peut être chargée avec des ions électrostatiquement. Comment est-ce que les roues du rover vont rouler à la surface? En fait, on ne sait pas très bien, parce que sur Terre, comme la gravité est forte, le matériau est très compacté, mais à la surface de Phobos, le matériau pourrait être très peu compacté. Donc, la liaison mécanique entre le rover et la surface peut se faire de manière totalement différente de sur Terre. Ça fait partie des choses en fait qu'on ne connaît pas très bien. Le matériau en microgravité, c'est vraiment une des grandes questions aujourd'hui qu'on a dans l'exploration du système solaire.
Oui, pour conclure, Pierre Vernaza, en effet, ce petit idée fixe fait 30 kilos, il va rouler, vous nous avez dit 1 mm par seconde, vitesse d'un escargot, mais on n'a aucune idée en effet de, est-ce possible d'utiliser la locomotion à roue sur un corps avec une si faible gravité?
En tout cas, les tests, les simulations numériques sont très optimistes. D'ailleurs, elles ont permis de façonner les roues, hein, qui sont très particulières, qui ont des espèces de pales qui vont permettre de rouler en microgravité. Donc tous les calculs ont été faits en amont. Ils supposent effectivement un régolithe assez friable. Et donc on espère effectivement que le rover ne va pas s'ensabler, rester immobile et pouvoir avancer.
Et pouvoir en effet nous ramener ces échantillons. En tout cas, merci, on arrivait à la fin de cette discussion, mais pour mieux comprendre la physique des matériaux en microgravité, je renvoie nos auditeurs au podcast notre épisode Microgravité, l'astre et la matière. Merci Pierre Vernaza, merci Sébastien Charnoz. Tout de suite, c'est une semaine spéciale pour la chronique Avec Science, avec Alexandra Delbeau.
Cette semaine, on s'intéresse à l'expérimentation animale et comment s'en passer, avec un premier épisode aujourd'hui. Quelles sont les règles en matière d'expérimentation animale? En 2023, 2 millions d'animaux ont été utilisés à des fins expérimentales, un chiffre globalement stable. Pourtant, nous le savons, ce sont des êtres sensibles. Et qui dit sensibilité, dit potentielle douleur. Et c'est cette douleur qui soulève des questionnements éthiques et définit la notion même d'expérimentation animale. Selon la directive européenne de 2010, il s'agit de toute recherche susceptible de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille. Ce cadre législatif exclut les invertébrés sauf les céphalopodes. Sinon, tous les vertébrés, même au stade larvaire, sont soumis à une réglementation particulière, et il y a un principe éthique à la base de toutes ces démarches, c'est la règle dite des 3 R. Pierre Mormed est vétérinaire, directeur de recherche émérite à INRAE et président du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.
La règle des 3 R, c'est une règle qui a été énoncée déjà il y a bien longtemps, puisque c'était en 1959. Des scientifiques britanniques, Russell et Birch, ont produit un livre sur l'utilisation des animaux à des fins expérimentales qui soient les plus humaines possibles, comme ils le disaient dans leur langage. Et leur démarche éthique a été guidée essentiellement par 3 principes, qui sont le remplacement des animaux par d'autres approches. Parce que si on remplace les animaux par une méthode non animale, eh bien, le problème est résolu. Deuxième principe est celui de la réduction du nombre des animaux utilisés, mais tout en assurant la fiabilité des résultats. Donc, c'est important. Il ne faut pas diminuer les animaux pour qu'au bout, les analyses statistiques soient plus valables. Et enfin, le troisième principe est le raffinement des procédures, utiliser des analgésiques, par exemple, dans les procédures douloureuses. Toutes les démarches que l'on va utiliser pour assurer une protection maximale des animaux, c'est-à-dire s'en occuper pour limiter les dommages qui sont infligés aux animaux. Et donc, remplacement, réduction, raffinement, eh bien, ça nous fait les 3 R.
S'ajoute à ces 3 R un quatrième qui est de plus en plus souvent mentionné, la retraite ou la réhabilitation. C'est l'un des 3 devenirs de l'animal après l'expérimentation. Soit il est euthanasié, soit il est réutilisé dans une autre expérience, soit, par le biais en général d'association, il est adopté ou relâché. En proportion, c'est encore faible. Selon la base de données européenne Allure, qui existe depuis une petite dizaine d'années, 14 000 animaux ont ainsi été replacés. Mais quelles sont les autorisations à obtenir pour pouvoir faire de l'expérimentation animale? En premier lieu, il faut travailler dans un établissement agréé et ensuite déposer pour chaque projet de recherche une demande d'autorisation auprès de comités d'éthique.
Il y a une double tutelle ministérielle, hein, le ministère de l'Agriculture qui s'occupe de l'agrément des structures expérimentales et le ministère de la Recherche qui, lui, est chargé de l'agrément des projets de recherche précisément. Donc, l'utilisateur rédige un projet de recherche qu'il soumet à un comité d'éthique en expérimentation animale. Alors, les comités d'éthique ne sont pas une dépendance du ministère. Les comités d'éthique sont régionaux, hein, au niveau des installations expérimentales, et qui comprennent des scientifiques, du personnel d'utilisation des animaux, et également un vétérinaire nécessairement, et des personnes qui sont extérieures à la recherche et qui donc représentent la société civile dans ces comités d'éthique. Ce comité d'éthique donne un avis, et cet avis, lorsqu'il est positif, bien sûr, il est soumis auprès du ministère, et c'est le ministère qui donne l'autorisation de projet.
Quand on se penche sur les chiffres, on peut être un petit peu étonné. En 2024, sur 3168 projets, 3014 ont été acceptés. Mais en réalité, les projets initiaux ne sont quasiment jamais validés en l'état. Il peut y avoir jusqu'à 8 allers-retours, 8 navettes entre le comité d'éthique et les porteurs du projet pour qu'il y ait des modifications, preuve potentielle de leur intérêt. Malgré tout, le fonctionnement des comités doit évoluer. On peut pointer un manque de transparence, d'uniformisation, d'indépendance, ainsi qu'une absence de réelle évaluation à l'échelle nationale. Les comités d'éthique sont bénévoles, régionaux et dépendent parfois d'un seul centre de recherche. Ils sont composés de scientifiques, eux-mêmes expérimentateurs, ce qui les rend juges et parties. Ce que demandent les comités d'éthique de leur côté, c'est que cet aspect soit pris en charge très tôt lors de la demande de financement. Parce qu'il est impossible de séparer évaluation scientifique, donc la valeur du projet, de l'évaluation éthique. Or, c'est dès le début que l'on peut déterminer si l'utilisation de l'animal est indispensable. C'est notre premier R, le remplacement quand c'est possible. Dans les faits, ce n'est pas ce que jugent les comités scientifiques, puisqu'ils se focalisent sur la valeur du projet, et ce n'est pas non plus ce que jugent les comités d'éthique, qui s'assurent que les animaux sont maintenus dans les meilleures conditions possibles, dans un contexte qui reste celui de l'expérimentation.
Merci Alexandra pour votre chronique, et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Louanger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Céline Lozen. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Mineta Djawara. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.